Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez les oreilles loin du front. Alors ce soir, on ne parlera pas de 1944, mais on parlera tout de même d'histoire. Alors Alexandrine, quel est le sujet du jour ?
Eh bien le sujet du jour, en fait on va parler d'une certaine Anastasie et de ses ciseaux avec Maurice Rachfus. Alors bon, je vais décoder tout de suite, on va parler de la censure militaire et policière. Pendant la période de la Première Guerre mondiale, donc 1914-1918, bien sûr. Et donc voilà, il y a une certaine actualité, puisqu'on va bientôt commémorer le centenaire du déclenchement de la guerre. Voilà, et donc Maurice Rachfus, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il a publié de nombreux ouvrages historiques donc sur cette période-là, sur la période de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, sur les différents états policiers à différentes époques, on va dire ça
dont
comme
le,
ça.
Dont le nôtre.
Ou une autre. Voilà, donc on est très content d'avoir Maurice Rachfus en plateau. On va le retrouver tout de suite après ça.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents, entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être, 15 heures par jour le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre, oui notre monsieur, oui notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu, lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux de quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêtres, oui notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Et ouais, pourquoi ont-ils tué Jaurès? C'était la version de Zebda.
D'une chanson de Jacques Brel, quand même. Voilà. Et donc, on est aujourd'hui dans les oreilles loin du front, en plateau, avec Maurice Rachfus. Donc, je le disais, tout à l'heure. Maurice Rachfus, on peut lui accoler le qualificatif d'historien, parce qu'il commence à être assez spécialiste.
Non institutionnel,
ouais. Historien militant, on peut dire ça.
Ouais. En fait, historien de la répression.
Voilà, historien et de la police, notamment,
de la répression en général.
Effectivement, et là donc on va donc se pencher sur un ouvrage qui était déjà paru en 1999. Mmh. Tu nous disais hors antenne qu'à l'époque il était un peu passé inaperçu, mais là on est en 2014, donc 100 ans après 1914.
Hein, donc le début de la Première Guerre mondiale.
Bientôt, ce sera cet été en fait. Mmh. Le déclenchement de la guerre, c'était donc en plein été 14. Et donc là, contrairement sans doute à la tonne de livres qui vont paraître ou qui ont déjà commencé à paraître, on ne va pas parler de ce qui se passe au front, on va parler de ce qui se passe à l'arrière et de l'état, l'instauration de la censure et d'une censure particulièrement bien rodée et qui touche plein de domaines de la vie des gens qui sont à l'arrière.
Comme il est dit dans le barbier de Séville, on peut parler de tout, sauf de ce qui est interdit.
Voilà. Et ça fait beaucoup de choses, on va le voir, parce que du coup, les censeurs, comme d'habitude, sont toujours assez zélés. Et alors, donc, la première question un peu plus technique, on va dire, c'est pourquoi donc avoir décidé de rééditer le bouquin? Est-ce que c'est juste la concomitance avec le...
Parce que c'est le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Ok, voilà, ça c'est une bonne raison, effectivement. Et alors à la base, le travail il est effectué, puisqu'il est effectué avant 1999, qui est la date de la première édition. Et donc tu as travaillé essentiellement sur les archives de la préfecture de police et beaucoup...
Et de l'armée de terre.
Et de l'armée de terre. Oui. Mmh. Donc les archives, le service...
sont entièrement ouvertes.
D'accord. Et donc, a priori, il y a certains. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est un sujet qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup traité sur la période.
Pas du tout.
Voilà. Je fais misère, mais voilà, pas du tout. Donc très certain.
Quand il est sorti en 99, les historiens institutionnels m'ont fait la gueule, disant de quoi se mêle ce type.
Oui, comme souvent. c'est bien que tu te mêles des choses qui sont censées pas nous regarder. Et donc il y avait un certain nombre de documents du coup qui n'avaient pas été touchés ni qui n'avaient pas été déterrés.
J'ai été frappé de la maladie du chercheur d'archives. J'ai beaucoup éternué parce que c'était plein de poussière.
Alors. Ce que tu expliques déjà d'emblée, c'est que on a peut-être une image, je sais pas, de nos jours, quand on n'a pas connu ces temps-là, on se fait peut-être une image un peu caricaturale de la censure. On pense d'abord à la presse, on pense, bon, évidemment, c'est une des cibles principales, mais on voit avec ce livre que c'est pas uniquement les journaux qui sont visés, c'est bien plus large que ça.
On peut dire qu'il y a une sorte d'état siège moral qui frappe toute une partie de la population. Hein. Mais c'est pas, ça déclenche pas le 3 août 14 avec la guerre, ça commence avant, puisque deux jours avant l'assassinat de Jaurès, il y a déjà des meetings pour la paix qui sont interdits, meetings syndicaux. Mmh. Donc ça remonte à loin. Et très récemment, dans un débat, quelqu'un m'expliquait qu'avant 14, la France vivait un régime démocratique, presque parfait. J'avais rappelé à cet interlocuteur que lorsque Clémenceau était président du Conseil et ministre de l'Intérieur de 1906 à 1908, quand il y avait une grève dans une entreprise, il envoyait la troupe et on tirait. Et il y avait des morts à Draveil, à Villeneuve-Saint-Georges, à Raon-l'Étape, et puis les viticulteurs de la région de Narbonne. Donc, il y avait cet état de, comment dire, pas de censure stricte, mais d'interdit. Et le 1er mai, sous Clémenceau, la place de la République était en état de siège, et les gendarmes frappaient à coups de plat de sabre les rares manifestants qui se risquaient sur la place de la République. Donc, quand la guerre éclate, la censure, elle prend une autre forme. C'est-à-dire qu'il y a une armée de censeurs qui se retrouvent au marbre des journaux. C'est l'époque du plomb. Hein. Ils sont là et puis ils se font faire des moras, c'est-à-dire les épreuves ancrées. Et puis ils donnent des grands coups de crayon bleu, ils coupent. C'est ce qu'on appelle à l'époque l'échoppage. Et il y a une autre approche, c'est pour le courrier, où au début, ils donnent des coups de crayon sur le courrier, pour ne pas que ce soit lisible. Mais comme on arrive à lire en transparence, on arrête le courrier. La grande masse du courrier n'est pas entièrement frappée parce qu'il y a quand même 2 millions d'hommes qui écrivent régulièrement. Et il y a un système de tri au hasard, hein, comme on fait en statistique, et ils arrivent à tomber sur des lettres qui sont arrêtées, qui n'arriveront jamais à destination. Et j'ai trouvé aux archives des cartons entiers de lettres qui ne sont jamais partis des corps d'armée où ils avaient été saisis. Là, je fais une petite incise rapide. Il y avait sur le front français, du fait d'un accord avec le régime tsariste, il y avait une division de soldats russes sur le front français qui, en mars 1917, demande à retourner dans la Russie révolutionnaire. On leur interdit ce retour. Et j'ai trouvé aux archives, malheureusement, je lis ni le russe, encore moins le cyrillique écrit à la plume, des milliers de lettres de soldats russes qui demandent à rentrer chez eux. On ne connaît pas les motifs exacts parce qu'on ne peut pas déchiffrer. Mais ce qui est certain, c'est que dès qu'ils se révoltent et qu'ils se constituent en soviet, on les envoie au camp de la Courtine où ils sont canonnés par l'armée française. Ça, c'est un des aspects. Ce n'est pas de la censure, c'est du massacre pour ceux qui osent demander de retourner chez eux.
Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça, mais on se dit, enfin, on voit, tu le rappelais justement, à la veille de la guerre, plus ou moins, la gauche, disons, Parti socialiste, CGT, etc., la gauche est plutôt antipaciste, plutôt pacifiste,
antimilitariste. Les syndicats sont antimilitaristes.
Voilà, antimilitaristes, tout à fait. Mais ça bascule très très vite en fait.
Du jour au lendemain.
Ouais. Et alors comment on peut expliquer ce revirement parce que du coup après
parce qu'il y a l'Union sacrée avec le phénomène identique en Allemagne où les syndicats allemands avaient dit également ça sera la grève générale, il n'y aura pas de guerre. Donc du jour au lendemain c'est l'Union sacrée, il faut défendre la patrie et les syndicats avec à leur tête quelqu'un dont on ne parle plus tellement parce que ça fait longtemps, qui s'appelait Léon Jouot, qui a été secrétaire de la CGT même après cette guerre-là, là, qui appelle à la guerre fraîche et joyeuse pour défendre la patrie.
Donc finalement, le patriotisme l'emporte sur tout autre
réflexion. Il y a le patriotisme, une sorte d'enthousiasme pour certains, et le patriotisme obligé pour d'autres.
Parce qu'il faut rappeler aussi, pour les moins de 20 ans, que l'armée était une armée de conscription. Hein. Donc on n'était pas encore comme à l'époque actuelle.
C'était assez obligatoire.
Récent. Voilà, c'était tous les jeunes hommes en âge de se battre.
C'est gratuit, laïque et obligatoire.
Voilà, c'est ça.
Et de moins en moins laïque, parce que l'Église, à les époques, fait un retour sur elle-même et fait l'union sacrée avec la République, au nom des intérêts de l'Église, va défendre l'armée française. Et la République qu'elle a honnie depuis 30 ans. Quoi.
Alors, si on revient un petit peu plus en détail donc, sur les domaines concernés par la censure, enfin, voilà, les grands pôles de focalisation de la censure, alors, bien sûr, on va commencer par évoquer la presse. Alors, il y a un bureau de la presse qui se met en place, c'est ça ?
Il y a un bureau de la presse. Alors, au départ, c'est l'armée qui est chargée de la censure. Et l'état-major délègue ses pouvoirs de censure à la préfecture de police, qui à l'époque n'est pas seulement sur Paris, mais sur l'ensemble du territoire. Et ces censeurs, qui sont recrutés parmi des retraités de la bonne société, en font beaucoup plus qu'on leur en demande, parce qu'il faut être productif. Et puis quand on est productif, eh bien, on grimpe d'un échelon, on a plus de pouvoir. Et vraiment, la France est sous haute surveillance. C'est l'arrière est surveillé. Là, sur la couverture du bouquin, j'ai retrouvé une lettre saisie au corps d'armée où un soldat écrit à son épouse, de mémoire, tu me dis qu'ils ont encore saisi ma lettre.
Je passe.
Laisse-les faire, ça les occupe. Je les emmerde pas mal, ces bandes de vaches. Donc, il est sûr que du courrier de ce genre, ça ne peut pas arriver. Mmh. Et oui. Les censeurs ne se contentent pas d'arrêter le courrier subversif. Ils ajoutent des petits mots aux lettres saisies, surveiller la famille à l'arrière.
Oui. Donc,
ça veut dire que la société est mise sous haute surveillance dès qu'on a un mot de travers.
Et dans ces cas-là, puisque on voit que les gens sont au courant qu'il y a des censeurs, est-ce que les gens ont fait des codes pour pouvoir communiquer entre eux ou...
Et c'est surtout les censeurs qui pensent qu'il y a des codes. Parce qu'un exemple, les censeurs ne se contentent pas de couper des colonnes entières dans les journaux, ils arrêtent les publicités des magazines. Parce qu'ils ont le sentiment que la publicité est codée. Donc ils bloquent la pub pendant 15 jours, 3 semaines, et après ils laissent paraître en pensant que le code a été changé et qu'on peut laisser paraître cette publicité, comme on disait à l'époque de la réclame.
C'est quand même assez fou. Hein. On rappelle juste qu'on reçoit bien Maurice Rachfuss pour son bouquin « La censure militaire policière 1914-1918 » et c'est publié aux éditions du Cherche-Midi.
La butte rouge, c'est son nom, le baptême suite un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de bon muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qui est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu des larmes cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans. La butte rouge c'est son nom, le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur ce but-là, on y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient tant de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents.
La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi, j'y vois des croix portant le nom des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars, doucement, y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui bois de ce vin-là boit les larmes des copains.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'était La Butte Rouge parce que ce soir, nous parlons de la guerre 1914-1918 avec Maurice Rachus qui a sorti, c'est une réédition, un livre qui s'appelle La censure militaire et policière 1914-1918 et c'est aux éditions du Cherche Midi.
Alors, on va donc retourner dans ces histoires de censure, mais d'abord, il faut se rendre compte, parce qu'on parlait de la presse notamment, mais il faut se rendre compte de l'importance des journaux à l'époque, de l'importance et du foisonnement des journaux. On n'est pas du tout à la même époque qu'aujourd'hui.
Il n'y a pas de télévision.
Voilà.
Il n'y a pratiquement pas de radio. Et la seule source d'information, c'est cette presse populaire qui ne coûte pas cher.
Et les tirages sont énormes à l'époque.
Plus d'un million, le petit Parisien, oui. Le journal a un sou. C'était sa publicité.
Et donc, quand la censure se met en route, évidemment, elle va passer au crible tout ce que publient les journaux. Elle va d'abord interdire aussi les criers. On n'a plus le droit de crier.
On ne peut plus crier les titres de journaux.
Voilà. C'est parce qu'on a peur de...
du dérapage des crieurs.
Voilà. Par rapport au titre, même s'il est passé par le
temps de censure. Et on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe au front.
Alors voilà, donc tout ce qui est concerné, alors on se dit, bon, toute manifestation en faveur de la paix, mais ne serait-ce que d'évoquer le mot, c'est déjà trop. Qu'est-ce que c'est d'autre ? Donc le...
Parler de paix, c'est un crime de l'Est républicain.
Non, mais on parle de quoi alors dans ces journaux si on ne peut pas parler ni de la guerre, ni d'opinion politique
Eh bien, on parle de tout, sauf du reste.
Du beau temps.
François Froluche, la vie parisienne. La réception du président, les visites au front des grands de ce monde, les généraux en chef qui vont dans les tranchées pour goûter le pinard, comme on dit. Mais on ne parle de rien. Finalement, ça peut ressembler à un siècle d'écart à la Gazette de l'Empire sous Napoléon Ier, où c'était complètement vide d'informations.
Donc ça concerne ça vise l'information, mais ça vise aussi petit à petit et très vite en fait toutes les opinions politiques finalement qui s'expriment.
Oui, il n'y a plus d'expression politique, mais ça touche tous les domaines qui peuvent intéresser les censeurs, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, le musical, donc la chanson. Notez au passage que si dans l'armée allemande, il y a un service cinématographique de l'armée en 14, il n'y en a pas en France. Et le service cinématographique de l'armée en France commence en 1916 seulement. Tellement les censeurs ont peur d'une liberté laissée aux gens qui prennent des vues dans les tranchées.
Sachant qu'en plus, le cinéma, à l'époque, il est balbutiant, enfin, il démarre et c'est pas encore. C'est surtout considéré comme un. C'est pas encore un moyen d'expression.
Oui, mais il peut être subversif pour les censeurs.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas encore un moyen d'expression reconnu.
Il y a des images à ne pas montrer. On ne montre pas de cadavres, on ne montre pas de villages écrasés sous les bombes. Puis là, au passage, une anecdote imbécile, mais qui vient de la bonne presse de l'époque. C'est que un cadavre de soldat allemand sent beaucoup plus mauvais qu'un cadavre de soldat français. Authentique.
Alors, oui, ça se passe de commentaires. Justement, sur la censure politique, il y a un monsieur dont on a évoqué le nom tout à l'heure qui s'insurge à une certaine époque et puis une fois revenu aux affaires.
Clémenceau, quand la guerre éclate, il n'est plus président du Conseil, il est simple sénateur et directeur d'un journal qui s'appelle L'Homme Libre. Mais manque de chance, il est censuré lui aussi. Et son journal change de titre, devient L'Homme Enchaîné. Mais quand Clémenceau redevient président du Conseil fin 1917, il republie L'Homme Libre et c'est lui qui anime la censure.
Oui, il trouve ça tout à fait
normal. Il a oublié le Clémenceau de J'accuse de l'affaire Zola.
Et alors, une des cibles aussi dont on ne va pas malheureusement s'étonner, c'est également les étrangers qui sont visés. Et il y a notamment des journaux. Il y a par exemple, tu cites le cas d'un journal russe qui s'appelle
Nacheslovo,
qui veut dire notre parole, qui lui aussi tombe sous le coup.
Mais ça pour une raison tout à fait simple, c'est comme il est interdit de parler de paix, s'est créé à cette époque un comité pour la reprise des relations internationales. On ne dit pas le mot paix. Mmh. Et parmi les animateurs de ce comité pour la reprise des relations, il y a Léon Trotsky, qui sera expulsé en fin 16, début 17. Ouais.
Et donc, là aussi, ce que risquent des étrangers qui tomberaient sous le coup de l'interdiction de s'exprimer ou autre, ou d'exprimer d'autres opinions, eux, ils risquent aussi le bannissement par rapport à...
Le bannissement ou l'emprisonnement. Les étrangers ont le droit de se taire. C'est ce qu'on appelle gentiment l'obligation de réserve.
Donc, Et alors, tu disais, les publicités sont visées, les affiches sont visées, les petites annonces sont visées.
Les chansons, le théâtre. Alors, une anecdote, mais je pense que c'est très... L'anecdote n'a l'air de rien, mais très importante. Il y a, à l'époque, l'Argentine est le principal fournisseur de la France en viande congelée pour les armées et fournisseurs de courtage. Comme à l'époque, le tango est considéré en Argentine comme une musique subversive, il est interdit en France pour ne pas faire de peine aux Argentins. Mais non seulement on interdit le tango, on interdit l'usage du mot tango. Et j'ai vu aux archives de la police, à la préfecture, des centaines de feuillets de chansons interdits parce que simplement le mot tango est évoqué. Donc la connerie des censeurs va jusque-là.
Oui, tu le disais tout à l'heure, c'est eux qui voient des messages codés partout. Non, et qui, voilà, ils sont tellement, tellement zélés. Ouais, c'est le...
Non, mais là, pour le tango, c'est un prêté pour un rendu. Hein. C'est pour ne pas faire de peine aux Argentins.
Et donc, voilà, les petites annonces sont très souvent aussi... on a l'impression que c'est des messages codés. Enfin, voilà, c'est ça qui est souvent... mise en avant, mais comme tu le dis, ça tourne très souvent au grotesque, tellement les craintes sont...
Oui, mais la censure est grotesque par nature, parce que il y a les centaines de milliers de lettres qui partent chaque jour, toutes ne sont pas lues par la censure, il y en a qui passent au travers, donc on sait des choses. Il y a les permissionnaires qui, quand ils viennent en permission, racontent des choses. Ça veut dire que, d'une certaine manière, beaucoup d'informations bloquées par les censeurs arrivent à passer quand même. Et on sait ce qui se passe sur le front. On sait, les familles savent ce qui s'est passé au chemin des Dames ou à la caverne du Dragon. Puis là, je retrouve aux archives, là, par exemple, écrit à la plume dans les tranchées, pour une dizaine de versions de la chanson de Crown, qui a circulé sur tout le front en 17, et c'est, comment dire, l'information, elle arrive. Elle arrive, mais les censeurs font en sorte qu'il en arrive le moins possible.
Mmh. Et alors, du coup, ça pose aussi des soucis de tout ça, dans le fonctionnement, finalement, des secteurs qui sont touchés, hein, ne serait-ce que, par exemple, la publicité ou les petites annonces, vu qu'il faut que ce soit déjà validé, il faut que ça passe par la validation des censeurs, souvent, soit la publicité n'a plus lieu d'être parce que le délai est passé, ou la petite annonce.
Les annonceurs ne payent plus leur publicité.
Donc voilà. Donc en plus.
C'est bien triste. C'est...
Donc on voit que ça touche donc les écrits, mais ça va toucher. Donc, comme tu disais, aussi l'art et les divertissements populaires et le domaine artistique, bien entendu. Alors, on n'a pas visiblement tout n'est pas facile à trouver dans les archives non plus.
En principe, elles sont ouvertes, mais il y a des choses qui ont échappé aux archives. Il y a tout ce qui a été bloqué, puis tout ce dont. Tout ce qui a disparu, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Encore que aussi bien la police que l'armée sont des gens très... c'est des grands collectionneurs. Et le temps passé, on retrouve tout. Tout à l'heure, hors antenne, j'évoquais le rôle de certains chansonniers qui arrivent à se payer les censeurs avec des petits refrains rigolos et que les censeurs, dans leur connerie profonde, n'arrivent pas à comprendre. Par exemple, il y a un très long monologue sur le nouveau vocabulaire. Alors, il ne faut plus dire les berlingots, il faut dire les parigots, il ne faut plus dire l'autre Cologne, mais l'autre Pologne, des choses de ce genre. Et ça passe, curieusement. Et c'est la ridiculisation de la censure.
Alors, on est toujours en compagnie de Maurice Rachfus dans Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. Donc, Maurice Rachfus vient de rééditer La censure militaire et policière 1914-1918 au Cherche Midi.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu aux ciblots. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. ce sera votre tour. Messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front, et c'était la chanson de Craon, puisque ce soir, dans le dossier du jour, nous recevons Maurice Rachus pour la sortie de la réédition de son livre La censure militaire et policière 1914-1918, et c'est publié aux éditions du Cherche Midi.
Alors, on voit que la censure va toucher, donc, on l'a dit, divers domaines, mais va notamment aller dans des atteintes à la liberté qui dépassent largement le domaine ou la question, ou enfin, en tout cas l'aura de la défense nationale. Alors, en temps de guerre, donc, tout est permis. Une des choses aussi que les censeurs cherchent à éviter, c'est les informations concernant les conflits sociaux, parce qu'il y a un certain nombre de conflits sociaux qui vont se déclencher pendant la période de la guerre. Alors, il y a plusieurs questions qui vont se mêler, je vais te laisser en parler, mais notamment, il faut se rappeler que les hommes partis au front, bah, c'est les femmes qui font tourner les usines, et notamment les usines d'armement, et que, voilà.
Alors, le plus souvent, ce sont des femmes. Bon, il y a des minorités d'honneurs qui sont clandestins, qui font des tracts, mais le plus souvent, ce sont des femmes qui font ce qu'on appelle des papillons, des petits tracts qui font 10 cm sur 5 ou un peu moins. Certains sont imprimés parce qu'ils ont peut-être quelques amis dans les imprimeries. Beaucoup sont faits avec des timbres en caoutchouc. Et puis beaucoup sont écrits à la main, on en trouve partout. Et je retrouve aux archives, à ce sujet, des lettres de délation de bons citoyens qui écrivent au préfet de police. Voilà ce que j'ai trouvé dans mon quartier, et il faut mettre fin à ces menées subversives. J'ai retrouvé une lettre du directeur d'une des plus grosses boîtes d'automobiles à l'époque, c'est les automobiles Rosengard, qui écrit au préfet de police. Preuve à l'appui, il donne des tracts, la paix maintenant, qu'il a trouvé dans son usine. Alors ces tracts, il y en avait un peu partout. Ça ne veut pas dire que la France était insurgée, mais ça veut dire qu'il y avait un mouvement pour la paix tout à fait réel. Et comme les hommes étaient au front et que les femmes étaient à l'usine, les hommes restés à l'arrière étaient ou des planqués ou des gens du régime. Ce n'était pas eux qui se livraient à ce genre de plaisanterie, si on peut dire. Il y avait un rôle des femmes très important, et particulièrement avec une militante qui a survécu longtemps à la guerre, parce qu'elle est décédée en 1942, Louise Somono, qui fait des tracts où elle appelle à la paix, signé de son nom, ce qui lui fait courir de grands risques à l'époque.
Et dans le contenu de ces tracts, c'est essentiellement des tracts qui appellent à la paix, mais il n'y a pas des tracts, par exemple, qui peuvent appeler à l'insurrection ou à... d'autres...
Non, mais j'ai vu des tracts également rédigés en allemand, où ils s'adressent aux camarades.
C'est-à-dire qu'ils sont envoyés sur les lignes allemandes
des deux côtés. Où il faut en finir avec cette guerre, quoi. Alors, il y a autre chose que j'ai oublié qui est important, c'est qu'en 1917, pour la deuxième fois depuis la guerre, il y a un emprunt pour la guerre. Il y a des soldats qui écrivent à leurs femmes de ne pas donner d'argent pour l'emprunt, parce que ça peut durer la guerre plus longtemps. Et il y a des lettres du ministère de la guerre qui dit qu'il faut absolument surveiller ce courrier-là. C'est un courrier défaitiste.
Et justement, là, on parle de surveillance. Mais la surveillance, c'est la lecture du courrier. Mais il y a d'autres formes de surveillance qui est organisée ?
C'est-à-dire que le courrier, c'est à l'armée. Il y a la surveillance du courrier par la police, qui lit le courrier, mais qui le transmet quand même. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a ce que je disais tout à l'heure, un état siège moral où les gens sont complètement écrasés par la situation, avec des menaces tout à fait constantes, où les gens la trouillent. Il y a également ceux qui sont à l'arrière et qui ont peur que s'ils se conduisent mal, on les expédie au front. Il y a tout ça à la fois.
Et mais justement, sur le front social, il y a des chiffres qui sont assez parlants, que tu cites aussi, qui disent... la situation de guerre crée un climat social difficile, parce que, notamment, le pouvoir d'achat, par exemple, diminue très rapidement de 25 à 30%.
Toujours. Parce qu'on est en état de dictature, d'une certaine manière. C'est l'armée qui donne le ton. Mais sans faire d'amalgame, il ne faut pas oublier que quand Hitler prend le pouvoir d'Allemagne après Mussolini en Italie, eh bien, il n'y a plus de conflits sociaux, il y a moins de chômage, mais les salaires diminuent de 50%. C'est des situations qu'on retrouve toujours dans ces situations-là.
Mmh. Et le chiffre des grèves est assez parlant aussi. Hein. Mmh. On recense 98 grèves en 1915, 315 en 1916... avec plus de 40 000 grévistes, mais en 1917, 696 grèves avec plus de 293 000 grévistes.
Alors là, ce sont surtout les femmes, et puis les, comment dire, les sous-traitants qui font des uniformes pour les galeries Lafayette qui commercialisent pour l'armée. Un exemple rapide, où les sous-traitants en 1917 des galeries Lafayette font la grève des uniformes. Et ce sont pour l'essentiel des réfugiés juifs russes à Paris d'avant la guerre. Et les meetings se tiennent devant les galeries Lafayette en yiddish. Et ils ont fait venir un meneur depuis Londres qui a appris à parler yiddish pour parler à ces ouvriers-là. Et on traduit en français pour les quelques sous-traitants qui ne connaissent pas le jargon. Ça, c'est une anecdote parmi d'autres. Mais il y a des mouvements sociaux très forts. Hein.
Et donc, tu disais, les tracts, les papillons, tout ça, on va les retrouver dans des tas d'endroits.
Partout.
Ouais.
Partout. Alors, on ne sait pas quel a été l'importance de ce tract. On sait que ça existait. On sait qu'il y en avait beaucoup. On sait que le gouvernement s'en émeut constamment. Et que quand quelqu'un est pris avec des tracts de ce genre, il va directement en tôle. C'est comme ça qu'en 1915, déjà, Louis Lecoing, qui sera célèbre plus tard pour l'objection de conscience, est déjà arrêté à l'époque et mis en tôle parce qu'il a distribué des papiers subversifs.
Mais il y a même des gens, on risque la prison, mais on risque aussi la peine de mort pour certains. Peut-être pas pour les tracts, mais...
Non, la prison, enfin, la peine de mort, c'est les tribunaux... On nous dit qu'il y a eu 615 fusillés, pour l'exemple. Il y a certainement eu beaucoup plus, parce qu'il suffisait d'un petit abruti de lieutenant ou de capitaine pour décider que quelqu'un n'a pas voulu marcher à l'appel pour sortir des tranchées, pour faire des exécutions sommaires dans les tranchées.
Donc ça concerne plutôt les soldats, en fait.
Oui. À l'arrière, il y a quelques espions qui sont fusillés, ou espionne comme Matahari, bon, mais c'est pas des grandes quantités de personnes. Même un ministre de l'Intérieur comme Malvy, à l'époque, elle sera arrêtée en 1917, mais il sera pas exécuté.
Et donc, alors on parlait du courrier aussi. Alors on imagine bien que le courrier des soldats, ça passe nécessairement par l'armée, donc c'est facile à contrôler. Mais tu disais que, enfin, c'est facile à contrôler. En tout cas, les canaux sont contrôlables. Mmh. Mais tu disais qu'il y avait une grande différence entre la manière de faire des policiers et la manière de faire de l'armée et la manière de faire des policiers par rapport au courrier.
Les policiers n'arrivent pas à tout lire. Hein. Il n'y a pas comme actuellement avec les Américains le système échelon, le système qui consiste à tout écouter avec des mots-clés et ça s'arrête sur un mot-clé. Là, ce n'est pas le cas, on trie au hasard parce qu'ils ne peuvent pas lire 200 000 lettres ou 300 000 lettres chaque jour. Mais bon, ils ont quand même un certain butin, mais il y a une prudence obligée des soldats. La lettre qu'on a lue tout à l'heure, c'est un cas particulier. Mais les soldats sont tenus à la prudence, ne serait-ce que pour leur propre sécurité et pour celle de leur famille, rester à l'arrière. Il y a toujours dans ces circonstances-là une coopération, entre guillemets, obligée entre le bourreau et la victime, hein. Enfin, si on peut dire.
Mais tu disais aussi, hors antenne, que les policiers, par exemple, eux, ils ne confisquaient pas directement les lettres, nécessairement.
Non, ils les lisaient, ils les recopiaient, et puis ils envoyaient. J'ai retrouvé une lettre de Romain Rolland, qui était à l'époque en Suisse, qui écrit à sa mère, et systématiquement, les lettres de Romain Rolland à sa mère sont... C'est pas subversif du tout.
Et qui est Romain Rolland ?
Romain Rolland, c'est un romancier très important des années 20. Hein. Bon, il est connu pour ses grandes sagas comme Jean-Christophe à Paris ou L'Homme enchanté, mais à l'époque, il avait écrit quelque chose de bizarre qui s'appelait Au-dessus de la mêlée, qui était un peu ambigu. Hein. Il ne voulait pas prendre parti entre les deux.
Et d'ailleurs, est-ce que dans l'édition, il y a de la censure aussi
Bien sûr, il y a de la censure. Il y a de la censure et il y a de la prudence. C'est-à-dire qu'on incite les éditeurs à être prudents. J'ai essayé de travailler sur l'édition pendant la guerre. Et curieusement, je n'ai pas trouvé d'archives dans les grandes maisons d'édition de l'époque. Aussi bien chez Flammarion que chez des boîtes comme ça. Il y a très très peu de choses. J'ai également fait des recherches pour savoir comment l'enseignement participait à cette, à cet état d'esprit belliciste. Et j'ai retrouvé quand même des choses où on incite les enseignants, comme on ne sait pas combien de temps va durer la guerre, à faire des marches et des efforts de plein air pour les enfants de 14-15 ans. Et on leur apprend à creuser des tranchées, déjà.
Sacrée pédagogie. Effectivement. Alors, on est toujours en compagnie de Maurice Rachfus et on parle de la censure à l'époque de la Première Guerre mondiale.
Arrêtez-moi tout de suite, venez voir dans mes affaires, dans mon logement, dans ma suite, il y aura 2-3 déserteurs, des polissons réformés, qui chanteront la main au cœur, des chants ukrainiens bourrés, là et là, là et là, là et là, 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 là. Et s'il y a révolution, arrêtez-moi tout de suite, venez voir l'habitation qui entoure ma suite. Il y aura comme préparation des cocktails façon maison, des tirs flemmes et des lance-cœurs et des pistolets de porte-bonheur. Mais faudra pas venir pleurer si après vous êtes tous tués et que nous-mêmes emprisonnés, on soit tous en train de chanter la 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 la. Et je vous préviens que s'il y a combat, arrêtez-moi tout de suite, venez voir en bas de chez moi, dans le jardin de ma suite, les cheveux longs pour armement, les slogans à tour à le vent, faites l'amour le plus souvent, et pas la guerre évidemment, mais faudra pas venir pleurer, si après vous êtes tous tués, et que nous-mêmes emprisonnés, on soit tous en train de fumer, là, 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 là. Et je vous préviens que s'il y a manif, arrêtez-moi tout de suite, venez voir là où j'habite, dans ma maison sans calife, où il fait bon préparer des chants pour manifester, avec des paroles anarchistes et des refrains je m'en foutisse, mais faudra pas venir pleurer, si c'est bien ensoleillé, et qu'on préfère picoler à la terrasse d'un café, là, 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 là. Et s'il y a une trahison, cherchez pas plus loin que ma suite, prenez l'adresse de ma maison et rendez-y vous très vite. Moi et mon frère, on est espions, et mes sœurs, c'est des bouffonnes. Les secrets d'état mon fion contre un coup à boire entre les dents. Mais faudra pas venir pleurer si on vous ment à volonté et pour fausse information, vous soyez tous dégradés. La la la, la la la, la la la, la la la. Et même si on montre tant, arrêtez-moi tout de suite, venez voir l'appartement qui était là avant ma suite. Il y aura bien sûr toutes les sorcières, les crânes tendus, les juifs allemands, Jésus, Judas et mon grand-père, celui qui a déserté lâchement. Mais faudra pas venir pleurer si votre époque est ruinée et qu'on puisse lire notre vie dans toutes vos encyclopédies. La la la, la la la. Viens qu'il y a la paix, arrêtez-moi tout de suite, venez voir dans le palais qui orne ma suite. Il y aura tous les clandestins, les honnards et les cousins, des matelots anarchistes et des pédés trapézistes. Mais faudra pas venir pleurer si on est tous en bonne santé et que dans votre dictocratie on y fout de l'anarchie. Thank you.
c'était Les Ogres de Barbac et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et ce soir, nous parlons de la censure militaire et policière 1914-1918 avec Maurice Rachus.
Et alors, donc, cette censure militaire et policière, donc, elle vise aussi et beaucoup à faire respecter un certain ordre moral, hein, au-delà de simplement éviter les idées anti-guerre. Elle va jusque-là. Et un des exemples, ça peut être, par exemple, on en parlait juste là hors antenne, ça peut être donc dans les chansons populaires, par exemple, le registre grivois aussi est visé parce que...
On ne peut pas laisser dire qu'on s'amuse à l'arrière. Hein ouais. À l'arrière, on doit être grave et ne penser qu'aux gens du front et tricoter des petits carrés de laine pour faire des couvertures à ceux qui sont au front. Donc... La censure va bien au-delà de ce qui peut être, de ce qui peut être subversif ou de ce qui peut laisser entendre que les troupes gagnent ou perdent du terrain. Il ne faut pas laisser entendre non plus qu'à l'arrière, on se porte bien ou pas trop mal. Et surtout, qu'il y a des profiteurs à l'arrière. Ben ça, c'est complètement censuré tout de suite.
Et faut pas non plus donner de mauvaises idées aux femmes en attendant le retour de leur mari non plus. Enfin, y a des choses comme ça.
Il ouais, y a tout ça à la fois. Ouais. Hein.
Alors, donc on voit cette censure. Donc, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que on se dit bon, une fois l'armistice signé, bon bah ça y est, c'est fini.
Eh ben non. La censure va durer jusqu'au traité de Versailles en 1919. Un an après la fin de la guerre, il y a encore de la censure.
Alors, dans quel domaine
Les mêmes domaines.
Les mêmes domaines, tout partout. Ouais. Bon, ça fait du monde, quand même, qui travaille.
Clémenceau étant un président du Conseil.
Oui, bah, c'est tout à fait logique.
Et non, c'est logique, non, parce qu'au départ, il était contre c'est ironique.
C'est très ironique, bien sûr.
Au départ, il était même l'avocat des communards.
Exactement, il faut quand même...
Non, mais c'est fou. C'est une période pleine de rebondissements, on va dire. Mais donc, ce que tu disais aussi, c'est qu'effectivement, alors après, par la suite, comment dire, on va avoir d'autres périodes, effectivement, du même type, mais finalement, ça a été...
C'est répétitif. Quand la guerre éclate en septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale, il y a des colonnes entières qui sont blanches dans les journaux. De même, 30 ans plus tard, pendant la guerre, 25 ans plus tard, pendant la guerre d'Algérie, où les journaux sont longuement censurés ou interdits.
Donc il y a des prolongements,
donc c'est
finalement.
C'est une pratique. Alors maintenant, c'est plus possible, c'est pas la peine. Avec les réseaux sociaux et tout ce qui se promène sur les ondes, la censure n'a plus les moyens d'intervenir comme elle le fait. Mais il y a une autre approche, c'est la censure par le fric. Alors, on ne peut pas faire un journal comme on veut maintenant, ça coûte trop cher. On ne peut pas éditer parce qu'il y a des pressions sur les éditeurs. Mais bon, il y a des petites structures qui peuvent se permettre de balancer de l'information. Moi, on ne m'a jamais ennuyé depuis 20 ans avec mon bulletin que fait la police.
C'est vrai que tu éditais par tes soins. Mais voilà, oui, c'est effectivement ce qui est rappelé, ce qui sont les derniers mots du livre, c'est que finalement, la censure, elle n'a peut-être plus lieu d'être, en tout cas dans notre société actuellement, étant donné le pouvoir capitaliste, quoi, en fait. C'est plus par l'argent qu'on va réussir à ce que ça n'apparaisse même pas, en fait, tout simplement. Mais bon, restons vigilants, puisque voilà, le modèle était là, et bien là, et il n'y a pas que la France, d'ailleurs, qui peut en pâtir, actuellement.
Non, la France est un pays démocratique, hein.
Oui,
chacun fait ça. Mais c'est pire ailleurs. Ça peut être pire ailleurs.
Ça peut.
Alors, on recevait Maurice Rachus, historien, pour la sortie de son livre « La censure militaire et policière 1914-1918 » et c'est publié aux éditions du Cherche-Midi.